Journée spéciale, la rencontre des entrepreneurs de France, depuis l'Hippodrome Paris-Longchamp. BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ici sur BFM Business. Bienvenue à Longchamp pour la REF édition 2024, le grand rendez-vous de rentrée du MEDEF dans une ambiance absolument particulière, un contexte absolument incroyable cette année. Pas de gouvernement, tout du moins un gouvernement démissionnaire. La pression du nouveau Front Populaire pour accéder à Matignon, dont le programme a été d'ailleurs littéralement étrillé par Patrick Martin, aujourd'hui le patron du MEDEF. Le MEDEF qui veut peser dans le débat actuel, l'a dit Patrick Martin, on va l'écouter bien sûr dans un instant. Voilà, c'est de ce contexte politique, économique absolument inédit qu'on va débattre pendant 2 heures bien sûr ce soir avec tous nos invités. On sera notamment avec le patron de France Industrie dans une dizaine de minutes, Alexandre Sobo, le patron de Pascal, petite respiration dans l'informatique quantique à 18h20, Paola Fabioni pour le MEDEF, et puis nos experts qui seront là bien sûr à partir de 19h15 sur BFM Business. Marc Landré sera là, Leonidas Kalogiropoulos sera là, Jackie Isabelle Bello sera là. Ils seront tous là, bien sûr, pour décrypter ce climat absolument inédit. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, de Good Evening Business. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 20h. On commence avec le journal, bien sûr.
Good Evening Business, le journal.
Le journal, on va revenir évidemment pour commencer sur ce discours de Patrick Martin qui a ouvert cette REF édition 2024. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Est-ce qu'on rappelle qu'il est entré en musique comme tous les ans quand même?
Oui, c'est devenu une tradition ici à la REF.
Alors cette année, c'était...
Start Me Up.
Effectivement.
Patrick Martin qui a même osé un petit déhanché.
Il a même offert un déhanché. Voilà. Alors un déhanché avant un discours, alors qu'on a pu suivre évidemment sur BFM Business, d'une quarantaine de minutes. Il y a eu du positif, il faut toujours être positif quand on est patron du MEDEF, il y a eu aussi quand même quelques mises en garde très explicites, Thomas, aujourd'hui.
Du positif, parce que la France peut faire de grandes choses, comme l'a montré les Jeux Olympiques, mais une mise en garde aussi, parce qu'effectivement, nous dit Patrick Martin, la France peut tomber de très haut si elle efface, si elle revient sur la politique de l'offre. Cela se paiera cash, a dit Patrick Martin tout à l'heure, on l'écoute.
Remise en cause de la réforme des retraites, alourdissement de la fiscalité. À ces deux erreurs s'en ajouterait une troisième. Répondre au sujet réel du pouvoir d'achat des salariés modestes par une revalorisation massive du SMIC à la charge de nos entreprises. Érosion des rentabilités, destruction d'emplois, nouvel écrasement des grilles salariales, perte de compétitivité, de A à Z, les effets en seraient ravageurs.
Patrick Martin.
Donc il remonte au créneau, on vient de l'entendre, sur toutes les propositions, c'est vraiment mesure par mesure, il remonte au créneau contre le programme du nouveau Front Populaire. Les entrepreneurs sont inquiets, c'est ce qu'il dit et il répète. Les temps sont durs. Ce sont les mots qu'il emploie. Et il a présenté sa réponse. C'était ça qu'on attendait, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il allait répondre face à ces menaces politiques? Il a présenté son plan, un plan d'action en 3 points. Le premier, c'est de démonter pied à pied, justement, toutes les mesures politiques incohérentes, déconnectées de la réalité économique. Patrick Martin veut mettre en place, je le cite, un front économique. C'est pas un hasard s'il emploie ce mot, le terme de front, un front économique face, bien sûr, au nouveau Front Populaire, avec des chefs d'entreprise, avec des économistes, avec des think tanks. Ce sera front contre front. Ça, c'est évidemment une des propositions fortes qu'il a faites aujourd'hui. Deuxième idée, professionnaliser le MEDEF encore davantage pour renforcer son lobbying et son influence, notamment auprès des sénateurs et des parlementaires, puisqu'on voit bien que le pouvoir politique s'est beaucoup déplacé là-bas. Et enfin, le dernier point, c'est de profiter de ce vide politique pour imposer le patronat dans le débat d'idées, pour mettre en avant leurs propositions. Bref, pour prendre le pouvoir, prendre les devants, prendre le pouvoir. Le pouvoir, c'est le thème de cette REF 2024. Et on comprend bien que Patrick Martin et le patronat veulent profiter de ce vide politique pour justement s'imposer. Ils ont beaucoup souffert de l'écrasant pouvoir du politique depuis 7 ans. d'être cornaqué, d'être cadenassé par le gouvernement qui les court-circuite à chaque fois qu'on veut faire du dialogue social. Ouais. Bah là, justement, ils sont plus pieds et poings liés et ils veulent en profiter pour mettre en avant leurs idées.
Mais il a fait remarquer que le patronat européen avait pesé au moment des élections européennes, avait pu imposer quelques idées. Hein, ça, il l'a dit dans son discours.
Oui, hein, ouais, notamment ça, dans le virage un peu pragmatique, dans le Green Deal d'Ursula von der Leyen. Vous savez que ça a été son marqueur fort, son pacte vert, son Green Deal qu'elle a présenté il y a quelques années, enfin en tout cas au début de sa première mandature. Et ben, il a donné ça en exemple en disant, vous voyez, on a pesé, on a influé, on a réussi à faire infléchir une politique qui, même si elle est empreinte de bonnes intentions, était très difficile à assumer pour les chefs d'entreprise. Et ben, va falloir qu'on s'inspire de ça pour peser sur le débat politique et sur les mesures prises par les politiques en France.
Question, Thomas. Alors, gouvernement démissionnaire, donc il y avait quelques politiques malgré tout. On a vu une keynote notamment, Gérard Larcher était là.
Oui.
Yael Bonne-Privé était là, ils ont parlé pendant une quarantaine de minutes. Bruno Le Maire était là, sans être là, mais il était là quand même.
Il a été
salué par Patrick Martin.
Il a été
Martin
salué, à une place qui n'est pas la sienne d'habitude, en tribune, en tribune, justement, dans les gradins. Ça faisait 7 ans d'affilée qu'il était un peu la star de cette REF. D'habitude, la chorégraphie des universités d'été du MEDEF, c'est discours du président du MEDEF, réponse du Premier ministre, et le lendemain, Bruno Le Maire qui vient faire le service après-vente, comme on dit.
Et qui venait avec une petite mesure
favorable au patron, pro-business, pro-compétitivité, baisse d'impôts de production. Ça lui a valu d'être toujours ici applaudi, acclamé, beaucoup de standing ovation. Ouais. Et bien là, cette année, bien évidemment, Bruno Le Maire est sur le départ, il est démissionnaire, il a été là, les patrons lui ont rendu hommage, il a été longuement applaudi, et lui, a dit au revoir quelque part à son public qui lui a acquis.
Merci beaucoup Thomas. On reviendra bien sûr, on vous retrouve tout à l'heure à 18h35, on sera avec Bernard Spitz, l'ancien patron de la commission Europe internationale du MEDEF, et Edwige Chevrillon qui sera avec nous. On est là jusqu'à 20h évidemment pour décrypter toutes les annonces, le discours de Patrick Martin et tout ce qui s'en est suivi aujourd'hui au MEDEF. Rapidement, je vous redonne avant d'aller sur les marchés quelques infos de la journée en essayant de lutter, comme vous le voyez, tant contre le vent qui est déjà bien présent. Emmanuel Macron qui continue donc ses consultations avant de nommer un Premier ministre. Il a reçu ce matin Marine Le Pen et Jordan Bardella. Au sortir de cette réunion, ils ont réaffirmé toutes les deux leur intention de censurer un probable gouvernement du nouveau Front Populaire. Marine Le Pen qui demande l'ouverture d'une session extraordinaire de l'Assemblée avant la nomination d'un Premier ministre. On sait déjà que la rentrée sociale sera très chargée puisque la CGT envisage une mobilisation sociale pour la fin septembre, voire le début du mois d'octobre. C'est ce qu'a déclaré sa secrétaire générale Sophie Binet, qui évoque notamment l'abrogation de la réforme des retraites et le budget pour l'État 2025. Et puis vous avez trois syndicats d'enseignants qui appellent à la grève dès le 10 septembre. C'est pour dénoncer la généralisation des évaluations, cette fois dans les classes qui vont du CP au CM2. Deux mots d'entreprise encore avant d'aller sur les marchés. D'abord Uber qui écope d'une amende de 290 millions d'euros aux Pays-Bas. C'est là que se situe le siège social européen d'Uber, en cause des transferts de données personnelles des chauffeurs européens qui auraient été envoyés aux États-Unis. Des données que la plateforme n'aurait pas par ailleurs suffisamment protégées. Et puis encore un mot pour vous dire que le patron de Telegram est toujours en garde à vue. Pareil, Pavel Durov, arrêté samedi à son arrivée au Bourget. Il était sous le coup d'un mandat de recherche. La justice lui reproche de ne pas agir contre des utilisations controversées de la messagerie. Pavel Durov n'a rien à clasher, a déclaré hier Telegram. 18h07 sur BFM Business. On va sur les marchés.
Good evening business, les marchés.
Antoine Larigauderie est avec nous désormais tous les soirs. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On retrouve depuis nos studios à Paris. Comment ça s'est passé cette journée sur les marchés?
Légère hausse. On commence cette semaine dans le calme avec un CAC 40 qui gagne 0,18%. On s'arrête tout juste sous les 7600 points, 7590 points. Une séance assez peu active. À noter une contre-performance du compartiment technologique avec l'Euronext Tech Leaders qui perd 0,6% en clôture. On a parallèlement une tendance un petit peu mitigée du côté des marchés américains. Nasdaq, là aussi contre-performance de la tech à moins 1%, alors que le Dow Jones est à l'équilibre plus 0,07. Du côté des valeurs actives à Paris, on a pas mal travaillé. Unibail, Rodamco, Westfield qui signe la plus forte hausse à plus 1,25%. On a également une belle hausse de Total Energy qui gagne 1,13% à 62,86 €. C'est aussi un des facteurs intéressants de cette séance. Une hausse assez marquée des prix du pétrole qui ont dépassé à un moment les 80 $. Là, on repasse légèrement en dessous à 79,98 €. Alors que on a des interruptions d'exploitation d'exportation et de production du côté de la Libye notamment, et puis une prime de risque géopolitique qui est réapparue bien évidemment en fin de semaine dernière du côté du Proche-Orient. À noter ArcelorMittal aussi qui signe une hausse de 0,77% à 21,01€. ST Micro signe la plus forte baisse de l'indice vedette à moins 0,73%. On a Edenred aussi moins 0,55 à 38,08€. Petit coup de mou aussi sur le secteur bancaire, notamment sur la Société Générale qui perd 0,57% à 21,36€. Le CAC 40 lui termine donc sur une hausse de 0,18%, 7590 points du côté de l'euro-dollar. On est sur des plus hauts d'un peu plus d'un an à 1,1164. Guillaume.
Merci beaucoup Antoine, on se retrouve ici à la Rêve dans un instant avec nos premiers invités. Je vous le disais, Alexandre Sobol, patron de France Industrie, sera avec nous, le patron de... On va parler un petit peu d'informatique quantique avec le patron de Pascal, bien sûr, Georges-Olivier Raymond. Voilà nos premiers invités jusqu'à 18h30. Nous, on est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, sur BFM Business. À tout de suite.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h12, on est de retour ici à la REF à Longchamp pour le rendez-vous de rentrée du MEDEF. On va reparler bien sûr du discours de Patrick Martin, on va parler un petit peu de l'ambiance, du climat, de l'état d'esprit actuel des patrons, effectivement dans un climat politique on ne peut plus incertain, climat économique du coup on ne peut plus incertain. On va en parler de nos invités, le premier d'entre eux qui nous fait la gentillesse d'être avec nous, c'est Alexandre Sobo. Bonsoir monsieur Sobo.
Bonsoir.
Bonsoir, président de France Industrie, président du conseil d'administration de France Travail, directeur général d'Olot Group, bien sûr, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business. La première question que j'ai envie de vous poser, en fait, c'est est-ce que vous avez été heureux, comme beaucoup, est-ce que vous avez poussé un soupir de soulagement quand vous avez entendu Patrick Martin parler de compétitivité, de formation, d'emploi, d'innovation? Parce que mine de rien, c'est des mots qu'on n'avait plus entendus depuis un moment, ne serait-ce que pendant la campagne des législatives. Est-ce que ça vous a un petit peu réchauffé le cœur quand même, tout ça?
Comme toujours, hein, quand le président du MEDEF parle, il parle bien et ça me réchauffe le cœur. Ouais. Il a remis les sujets des entrepreneurs au cœur du débat et je pense que c'est une bonne chose. Après, on a effectivement une campagne très courte, centré sur des sujets très politiques qui ne permettaient pas de faire la pédagogie de l'économie. Et tout notre enjeu aujourd'hui, c'est que les acquis de 10 ans de politique de l'offre ne soient pas remis en cause à l'occasion de cette grande période d'incertitude, parce que les chefs d'entreprise, en particulier les industriels que je représente, ont besoin de stabilité, ils ont besoin, oui, de vision dans le temps long. Et ces périodes d'incertitude ne sont pas inoubliables, surtout si elles durent.
Gelées ou remises en cause, qu'est-ce que vous craignez s'agissant de la politique de l'offre, justement?
Dépend de ce qui va se passer. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Oui. C'est pour ça que ce qu'a dit Patrick Martin était important.
Alors, face à l'absence de réponse, on va revenir sur ce que disait Patrick Martin. Face à l'absence de réponse, le patron Alexandre Sobo, il est comment aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Chez Olot Group, comment ça se passe?
On travaille.
Oui, mais il travaille. Mais comment il se projette?
Il va voir ses clients, il essaye de prendre des commandes, il travaille sur ses prix de revient, sur la qualité de ses produits, il anime ses équipes, il fait son travail d'industriel. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement. Simplement, on voit notre écosystème qui est effectivement en France pour des raisons politiques.
Mais par exemple, vous, est-ce que vous avez gelé des investissements, des embauches pour les prochains mois? Il y a des choses en stand-by?
À très court terme, non, puisqu'on a une demande à satisfaire. Ouais. Ce qui va faire les principales décisions, c'est l'activité à court terme. Après, on voit bien chez nos clients, puisqu'on vend des biens d'équipement, plus d'attentisme qu'il y a 3 mois ou 6 mois en France. Donc, plus vite on lève les incertitudes et mieux on se portera.
Le climat des affaires n'était pas si mauvais. On regarde un petit peu les chiffres qui sont arrivés là dernièrement. Le climat des affaires n'était pas trop mauvais finalement, parce que la demande est là.
Oui,
en
il y a
Europe,
encore de la demande, les Jeux Olympiques, touristes qui sont venus. Et puis
l'inflation,
tous les
moins d'inflation, prix du pétrole au plus bas. Non, mais ce que vous dites, ce sont des facteurs conjoncturels et ça va se tasser parce que incertitude politique, parce qu'en toile de fond, vous avez un ralentissement du côté des États-Unis, du côté de la Chine.
De la Chine, dans tous les grands pays du monde aujourd'hui, après une très forte période d'activité, ça se tasse, c'est le cycle. C'est presque normal. Et donc, dans cet environnement, tout ce qui rajoute de l'incertitude n'est pas bon. Et on va voir à quelle vitesse les décisions sont prises et le nouveau Premier ministre et le nouveau gouvernement peut rassurer le monde économique sur les grandes orientations de politique économique qui seront poursuivies.
Qui sont poursuivies dans les prochains mois. Comment est-ce que vous regardez les sujets? Alors, on a vu Patrick Martin notamment qui n'a pas mâché ses mots s'agissant du programme du nouveau Front Populaire. Comment est-ce que vous regardez tout ce qui se joue notamment au niveau du débat sur le SMIC à 1 600 €? Vous avez vu ce matin Patrick Martin qui semblait dans la presse faire une petite ouverture, dit bon, 1 600 €, évidemment, le sujet est posé. Si on met ça en parallèle d'un débat sur le financement de la protection sociale, sur les transferts sociaux, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas une voie de passage finalement? Voilà les termes qu'il utilisait aujourd'hui.
Il y a deux choses qu'il faut être bien conscient. D'abord, la première chose, c'est que le niveau du SMIC dans l'industrie n'est pas notre première préoccupation, puisqu'on emploie très majoritairement des salariés qualifiés et que notre sujet, c'est la compétence, c'est la qualité, c'est l'innovation, c'est plutôt ce qui va arriver au CIR si quelqu'un avait la mauvaise idée d'y toucher. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose.
Ça reste une crainte pour vous, le CIR. Hein, ça a l'impression que les années passent, ça reste une crainte.
Bah, voilà, c'est en débat tous les ans. Donc, ces derniers temps, oui, ça a été préservé. Le président de la République a pris des engagements forts et il les a tenus. Dans le contexte politique actuel, on va voir comment le débat se fait. Mais la vérité sur le SMIC comme sur l'augmentation des salaires et des revenus, et ce qui est une attente tout à fait légitime, c'est qu'elle ne peut s'asseoir durablement que sur une augmentation de la création de richesses. Et l'augmentation de la création de richesses dans un pays comme la France, c'est plus d'innovation, c'est plus de formation, c'est une augmentation des compétences, c'est remettre en marche ou mieux faire fonctionner l'ascenseur social. Et pour ça, un des principaux leviers de fonctionnement de l'ascenseur social, c'est l'industrie, où on offre des carrières, des promotions, des évolutions. Et donc finalement, on retrouve toujours sur la même chose, plus d'industrie, c'est bon pour le pouvoir d'achat, oui, c'est bon pour la croissance, c'est bon pour les exports, oui, c'est bon pour l'innovation.
Alors en matière d'industrie, qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on dit que ça va mieux ? Voilà, on détruisait pendant longtemps 50 000 à 100 000 emplois par an dans l'industrie. Aujourd'hui, on en crée environ 20 000, donc il se passe quelque chose. Comment est-ce qu'en 2024, qui plus est dans ce contexte, on lutte encore en faveur de l'industrie finalement ? Quoi vous avez besoin, très concrètement, très urgentement ?
Il faut déjà que les gens soient conscients que ce qui se passe en 2024, c'est le résultat sur le court terme de la conjoncture, oui, et sur le moyen terme de toutes les décisions d'investissement, oui, qui ont été prises depuis 2020. Et donc finalement, ce qui se joue maintenant, c'est pas tant l'activité industrielle de 2024 que celle de 2025 et encore plus de 2026. Donc comme toujours, entre le moment où on prend les décisions et le moment où ça se voit dans l'industrie, il se passe 2, 3, parfois 4 ans, puisqu'on est le secteur économique du temps long.
Donc la question que je vous pose, de quoi vous avez besoin en 2024 et pour les prochaines années pour que l'on booste véritablement la réindustrialisation ?
Il faut poursuivre.
Est-ce que c'est un plan Marshall sur les cotisations ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi vous avez besoin concrètement ?
On a besoin que l'ensemble des sujets qui ont été mis sur la table, ouais, autour de l'investissement, ouais, de l'innovation, ouais, de la décarbonation, ouais, de l'internationalisation, avec tous les outils qui sont développés par les entreprises et tous les soutiens qui peuvent être apportés par l'État, notamment pour accompagner une décarbonation qui est exigeante et coûteuse, restent sur la table et permettent de poursuivre les gigafactories de batteries, la décarbonation de l'acier, les nouvelles usines de semi-conducteurs et tous les projets autour de la chimie, de la bio, de la biosanté. Il y a plein de choses extraordinaires qui se passent. Il faut que cette dynamique se poursuive. Mmh. Et on voit bien chez les investisseurs dans la période incertaine actuelle une question avec qui je discute, quelles garanties je peux avoir. Et donc c'est tout ça auquel il faut répondre le plus vite possible pour que la dynamique ne s'interrompe pas.
Vous avez l'impression que la majorité est en train, enfin l'ancienne majorité amende un petit peu certains de ces dômes, comme on commence à dire, oui, favoriser la conditionnalité des aides aux entreprises, oui, taxer les super profits, oui, pourquoi pas une esquisse de contribution, peut-être un simple one shot sur les ménages les plus aisés pour financer la transition énergétique. Est-ce que vous avez l'impression que là il y a une dynamique qui est cassée?
On va voir comment le nouveau gouvernement construit un équilibre, une majorité, une absence de censure.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que le discours a un petit peu évolué là, du côté du gouvernement actuel, du côté
Il n'y a pas de gouvernement. Il y a 11 partis représentés à l'Assemblée nationale qui vont devoir se positionner par rapport à un Premier ministre et un gouvernement qui va rechercher sur chacun des sujets un nouvel équilibre. Donc il nous appartiendra en tant que représentants du monde économique de s'assurer que ces nouveaux équilibres ne sont pas nocifs pour la croissance, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat. Comment remettre en cause une politique qui a créé 2 millions d'emplois en moins de 10 ans, ce qu'on n'avait jamais fait depuis très très longtemps. Je pense que tous les gens qui ont trouvé du travail depuis 10 ans et les 2 millions de nos concitoyens qui ont du travail grâce à cette politique, ils n'aimeraient pas non plus qu'elle soit remise en cause.
Justement, vous êtes président du conseil d'administration de France Travail, je le disais. Comment est-ce que vous regardez le fait que la réforme de l'assurance chômage soit en suspens à l'heure actuelle ? Alors les règles actuelles sont prolongées pour encore quelques mois, mais au-delà de ça, c'est le flou le plus total. Est-ce qu'il faut véritablement que cette réforme soit menée en l'état telle qu'elle a été conçue pour vous ?
Sur ce sujet comme sur tant d'autres, il faut avoir un agenda et un objectif clair. L'objectif, je crois, qui devrait être partagé dans une très large partie du spectre politique, il faut augmenter le taux d'emploi en France.
Ouais.
Il faut qu'il y ait plus de gens chez les jeunes, chez les gens de 25 à 55 et chez les seniors. Donc il faut prendre chaque catégorie, se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait plus de gens au travail ? Et c'est une partie du travail qui était engagé à France Travail. Mmh. C'est une partie de ce qui a déjà été fait par les réformes successives de l'assurance chômage. Il faut à chaque fois se poser la question, est-ce qu'on est allé assez loin ? Est-ce qu'il y a encore des mesures incitatives ? Donc le gouvernement avait mis des propositions sur la table qui convenaient au monde patronal. Après, dans tous les cas, quelles que soient les mesures, il faut en évaluer les conséquences. C'est toujours la même chose sur le marché du travail. Vous avez un effet de comportement et un effet de revenu. Il faut absolument que les mesures aient beaucoup plus d'effet de comportement, c'est-à-dire incitent les gens à augmenter leur intensité, leur quantité de travail, mais à aucun moment personne n'a l'agenda qu'il faut baisser le revenu d'un salarié qui fait tout ce qu'il peut pour retrouver du boulot et qui a des niveaux de revenus qui sont faibles.
Là, le débat, il s'est focalisé sur la durée d'indemnisation, hein, pas sur le niveau de revenus d'indemnisation.
Oui, mais hein, d'ailleurs, c'est un très bon indicateur, puisque ce qu'on voit très bien, c'est que le retour à l'emploi, il se joue dans les 6 premiers mois.
Oui, oui.
Donc,
oui.
La période clé d'indemnisation, d'accompagnement et d'incitation, c'est les 6 premiers mois. Ce qui se passe au-delà de 6 mois et en partie au-delà de 12 mois, c'est des gens qui se sont trop éloignés du marché du travail pour y revenir facilement. Donc là, on a un sujet d'accompagnement spécifique, trouver les freins périphériques, bien comprendre pourquoi ces gens-là sont dans cette situation. L'enjeu de l'indemnisation et l'enjeu de la durée, c'est sur le début de la période qui est
absolument indispensable. Et France Travail est en train de monter en puissance. Donc France Travail est opérationnel depuis le 1er janvier, si je ne me trompe pas.
Oui, mais non, ça prend la suite de Pôle emploi qui était opérationnel avant. Oui. Donc il y a plein de choses qui continuent. Il y a une équipe dirigée par Thibaut Guilly.
Mais il y a plein de choses qui vont être renforcées. Voilà, France Travail, justement.
Encore une fois, face à un marché du travail qui évolue, face à des besoins de transformation, à des besoins de montée en compétences, à des besoins de formation, à un monde qui n'est évidemment pas le même qu'il y a 5 ans, pas le même qu'il y a 15 ans, il faut régulièrement se poser les questions comment on peut faire mieux. Et je pense que c'est une bonne approche de toute organisation, qu'elle soit privée ou publique. Comment je peux faire mieux demain qu'hier au service de mes clients ou de mes usagers ou de mes contribuables ou de mes concitoyens.
Merci beaucoup Alexandre Sobo, merci de passer nous voir, donc président de France Industrie, président du conseil d'administration de France Travail et puis directeur général de l'OT. Bah, vous pouvez rester avec nous parce que vous parlez d'innovation, on va accueillir un patron qui innove. Alors je le vois à quelques mètres de nous, je vais lui demander de nous rejoindre, c'est Georges-Olivier Raymond, le PDG de Pascal. Vous savez qu'on est dans l'informatique quantique évidemment. Bonjour Georges-Olivier Raymond, venez nous rejoindre, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup, start-up française dédiée à l'informatique quantique qu'on ne présente plus, qui a mis au point un ordinateur quantique à atome neutre, qui a fait beaucoup parler, notamment depuis cette annonce. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, Alexandre Sobo, c'était en mai dernier, quand vous avez annoncé, Georges-Olivier Raymond, que vous alliez vendre l'an prochain à Aramco, le pétrolier saoudien, un ordinateur d'une puissance, alors c'est un terme un petit peu technique, de 200 qubits. Ça veut dire quoi un ordinateur quantique de 200 qubits, en quelques mots, Georges-Olivier Raymond, racontez-nous ça.
Je vais présenter ce que c'est qu'un ordinateur quantique, d'abord, avant de parler de qubits. C'est un moyen de faire. Donc c'est un ordinateur qui fait du calcul, et il le fait différemment des ordinateurs qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'on l'appelle quantique. Il va utiliser les lois de la physique quantique pour faire ça. Et c'est ça qui va lui donner une puissance de calcul exceptionnelle. Et pour qu'il soit quantique, il faut qu'il y ait des qubits. C'est des particules élémentaires, un atome, un photon, qui se comportent de façon quantique et dont on va maîtriser son comportement pour l'amener à faire le calcul qu'on veut. Et pour le dire très vite, plus il y a de qubits, plus l'ordinateur est performant.
C'est ça, c'est ça. Même question que je posais à Alexandre Sobo, vous avez écouté le discours peut-être de Patrick Martin. Bon, il n'a pas vraiment parlé d'innovation, on espérait peut-être, il en parlait un peu ce matin dans la presse, il n'en a pas reparlé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une frustration chez vous qu'on ne parle pas suffisamment de ces sujets d'innovation, de ces sujets d'impératif de recouvrir une certaine souveraineté technologique en France? Est-ce que ça vous frustre un petit peu tout ça finalement?
Alors, je crois qu'il en a parlé ce matin.
Il en a parlé ce matin dans la presse.
Justement que ce n'était pas assez présent.
Mais oui.
Et je trouve qu'il a tout à fait raison. Parce qu'en fait, l'innovation, là, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est les emplois et l'industrie de demain. Avec l'ordinateur quantique, on est en train d'inventer l'informatique de demain. Pascal, j'espère que demain, ça sera le nouveau Microsoft, le nouveau Nvidia. C'est ça qu'on est en train de construire. Et quand vous pensez après en termes de retombées, c'est gigantesque. Si on arrive à construire notre premier GAFAM européen français, je pense que on aura gagné quelque chose.
On peut construire ce premier GAFAM, notamment autour de votre groupe. Alors il y a de la concurrence évidemment en France, il y a de la concurrence au niveau européen, celle des GAFAM. Vous craignez laquelle, vous, principalement de concurrence?
Je la crains tout le monde, parce qu'on est tous au même niveau en fait. Et c'est ça qui est un peu paradoxal et que les gens ont peut-être un peu de mal à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, une start-up peut concurrencer un grand GAFAM, IBM ou Google, parce qu'on est encore dans les phases très tôt, très amont.
Ouais.
On est vraiment sur la tech. Donc si vous arrivez dans ce marché avec une bonne tech, que vous savez mettre en œuvre, mettre opérer, eh bien vous pouvez prendre les parts de marché. Et les équipes des concurrents, elles sont de la même taille que celle de Pascal. Donc on a vraiment, on est dans la course, on est au bon niveau. Je pense même qu'on est un petit peu devant. Il faut en profiter parce que ce n'est pas des opportunités comme ça, il n'y aura pas tous les jours.
On est sur un enjeu de souveraineté. Et vous disiez, je vous lisais dans une interview en juin dernier, vous disiez l'informatique quantique, il y a ceux qui l'auront et ceux qui ne l'auront pas. Ça veut dire quoi ça concrètement?
C'est un vrai enjeu de souveraineté. Aujourd'hui, on parle beaucoup de DA générative, de ChatGPT. Donc ça, c'est la partie émergée de l'iceberg.
Ouais.
Ça existe parce qu'il y a du hardware. Il y a les GPU de Nvidia qui sont derrière, qui permettent de faire tout ça. Mmh. Aujourd'hui, tous nos moyens de calcul, tous les CPU, ils sont américains. Donc si vous arrivez à créer, à inventer des nouveaux processeurs qui fonctionnent différemment, qui sont plus puissants, et si en plus c'est vous qui les fabriquez, eh ben vous avez cette souveraineté.
Est-ce que l'Europe est pas une... la France et l'Europe sont pas des petites joueuses? Je dis ça parce que je voyais passer une étude du BCG il y a de ça quelques mois qui disait, bah voilà, on a calculé la part de marché des États-Unis en matière d'informatique quantique, c'est de l'ordre de 27%. L'Europe c'est 14%, la France c'est 2%. Est-ce qu'on a une carte à jouer en Europe véritablement? Mais en
ça,
France,
ça,
en
ça
Europe,
veut dire que le marché est global.
Oui.
Et qu'il faut être global. Et ça, Pascal, est global. On a des, on a été créé en France. Notre recherche est française. Elle a été faite au CNRS, à l'Institut d'Optique. On est basé en France. Ouais. Mais il n'empêche que nos clients sont globaux. Aramco, Middle East. On a des clients en Asie, au Japon, aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment global. Et c'est ça qui va nous, permettre de monter dans l'ascenseur.
Qu'est-ce qui manque à l'écosystème français, qui est déjà bien développé en matière informatique quantique? Qu'est-ce qui manque à l'environnement français pour accélérer encore finalement dans les prochains mois?
Je peux faire écho au discours de Patrick Martin qui parlait d'investissement et d'investisseurs. Aujourd'hui, c'est un peu ça qui nous manque. On arrive à en trouver pour les phases de développement, enfin les premières phases de développement. Mais quand vous grossissez, il faut investir plus.
Ouais, c'est ça.
Il faut investir fort parce que ça permet d'aller plus vite. Et alors que le marché n'est pas forcément encore là, hein, même si on a des clients comme Aramco. Et c'est là où ça devient plus difficile, où les différences peuvent se faire avec d'autres pays.
Il y a des défis, d'enjeux d'ingénierie. Et il y a des défis de compétences, de formation de compétences. Ça, c'est le vrai sujet, la compétence. Trouver les compétences, finalement.
Alors, il y a des enjeux dans le quantique, il y a une myriade. C'est l'aventure spatiale dans les années 70.
Ouais.
C'est ça qu'on fait. Donc, il y a tous les enjeux d'une entreprise. La techno, le recrutement, faire du business.
Non, mais est-ce que vous trouvez les compétences aujourd'hui, concrètement?
En quantique, on les trouve.
On les trouve?
Eh oui, parce qu'en Europe, et particulièrement en France, on a des très bons laboratoires de recherche publique qui forment des scientifiques, des chercheurs, qui après peuvent mettre leur talent au service d'entreprises comme Pascal. Donc ça, c'est vraiment une vraie valeur. Les profils qui sont plus durs à trouver, c'est les ingénieurs classiques, les développeurs classiques, où là, on est en concurrence directe avec les GAFAM, justement. Et c'est plus difficile. Mais on y arrive, parce qu'on a un projet qui est différent, on a une start-up, on a autre chose à offrir.
Ouais. Et je veux préciser que l'ordinateur que vous allez... livré à... C'est 2025, hein, c'est ça, hein, pour
c'est
livrer
2025,
cet ordinateur.
Oui.
Ouais. Cet ordinateur, il est assemblé en France, dans votre usine de Massy, en région parisienne. 200, 300 salariés, je crois, en France. Hein,
on approche des 300, là.
Vous approchez les 300 aujourd'hui.
On sera 300 en fin d'année, je pense.
Ouais. À Massy, vous avez réussi à récupérer le savoir-faire et assembler tout ça à Massy, finalement.
Oui.
C'est une vraie perf. Ouais.
Oui, c'est à côté du plateau de Saclay.
C'est à côté du plateau de Saclay. Alors, vous parlez de Saclay, ça tombe bien parce que j'ai vu qu'IBM allait investir 45 millions d'euros du côté de Saclay dans l'informatique quantique. Ils vont venir débaucher des salariés de Pascal, potentiellement. Faites attention à ça. C'est l'éternel garde des talents, quoi, évidemment.
IBM, c'est un compétiteur, mais c'est aussi un partenaire.
C'est aussi un partenaire.
On a annoncé un partenariat avec eux.
Ouais.
Parce que on s'est rendu compte, en fait, qu'on partageait un petit peu la même vision de comment développer l'ordinateur quantique. Hein, c'est comment y arriver. Et avec des technologies différentes. Donc on s'est dit, plutôt que transformons cette compétition en opportunité pour aller convaincre d'autres potentiels clients.
Ouais.
Donc IBM aujourd'hui c'est un partenaire.
Un partenaire avant tout. Merci beaucoup Jean-Olivier Raymond. Alors je pense que vous allez participer à une table ronde. On aurait pu en parler pendant une heure. D'un mot je dis, parce que vous allez participer à une table ronde, je crois, demain matin ici à la REF, qui s'appelle Quand la science change le monde. Avec cette question, la science et la technologie ont-elles les moyens de transformer le monde de manière positive? C'est une question sans réponse, ou qu'est-ce que vous allez dire demain matin à ce sujet, à cette table ronde?
Une réponse qui est positive.
On
peut répondre que oui à cette question.
Elle l'a déjà fait. Le calcul quantique, on appelle ça la deuxième révolution quantique. Parce qu'il y en a déjà eu une.
Ouais.
Et cette révolution-là, c'est la physique quantique qui a été développée au XXe siècle, qui a abouti à l'invention du transistor. Le transistor, c'est composant élémentaire qui font fonctionner nos processeurs classiques. Et c'est une vraie invention de la science. C'est les chercheurs qui l'ont inventé grâce à leurs connaissances.
Ouais.
Et regardez le succès quand même. Tout le monde digital, c'est ça. Le GPS, le laser, tout ça, ça vient de la science et de la physique quantique.
C'est vrai. Voilà. Donc on répond positivement à cette question. Oui, dans
Sans état d'âme,
absolument. Merci beaucoup, Georges-Olivier Raymond. Merci de venir nous voir ce soir, PDG de Pascal. Ça nous a permis de parler d'innovation, de ne pas parler que des sujets qui fâchent, qui font diversion aussi. Merci en tout cas, Alexandre Sobo également, président de France Industrie, président du conseil d'administration de France Travail et directeur général de Lotte. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés nous voir ce soir sur BFM Business.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, on est de retour ici à la REF à Longchamp, le rendez-vous de rentrée du MEDEF avec ce discours de Patrick Martin dont on va entre autres reparler bien sûr plus d'autres sujets jusqu'à 20h en direct sur BFM Business avec nos invités. Bernard Spitz qui nous a rejoint. Bonsoir Bernard Spitz.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, président des GRAC, ancien président de la Commission internationale et Europe du MEDEF. Edwige Chevrillon qui est avec nous. Bonsoir Edwige.
Absolument, bonsoir.
Qui arrive d'une Guillaume. Table ronde tout juste.
Absolument, table ronde sur pouvoir vert, pouvoir faire, avec notamment Catherine McGregor, patronne d'Engie, Pierre-Alain Chalinda, Eric Saint-Gobain, aujourd'hui l'Institut d'entreprise, Antoine Gosset-Grainville, qui était ce matin sur BFM Business, le président du conseil d'administration de l'AXA, et puis Jean-Pascal Tricouard, qui est le patron de Schneider Electric, et puis une activiste très intéressante, Julie Pasquet. Gros débat, je peux vous dire.
C'est-à-dire en deux mots pour...
Eh bien, Julie Pasquet, activiste, leur a dit, mais attendez, vous savez, c'est un récit, moi je ne crois pas dans votre récit, il faut changer, il faut qu'on change de modèle économique. Et donc, assez intéressant, ils ont tous dit que les comportements de l'État, des entreprises, nos comportements, c'est ça qui pouvait conduire à cette transition écologique. Et puis quand même que l'Europe, on est parti avant et maintenant on est en retard par rapport aux Américains et notamment par rapport aux Chinois où il y a une vraie civilisation climatique et qu'une innovation... une technologie qui joue un grand rôle dans cette transition et c'est sans doute en tous les cas ce qui nous manque.
C'est ce qui
ici,
nous manque
à nous.
Bernard Spitz, réaction à ce que vous venez d'entendre, effectivement, voilà, changement de comportement désormais inéluctable.
Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans à la fois des investissements et des comportements qui nécessitent que tout le monde soit adhère. Pas l'État qui tout seul va pouvoir décider d'imposer les choses. Il peut créer les conditions favorables. Et ces conditions, c'est en partie à la fois de la pédagogie, puis c'est aussi du financement, de l'investissement. Et ça pose un problème d'équilibre général de nos capacités à investir. Et ça, c'est un problème macro plus global.
Et réaffirmer que la transition énergétique, quoi qu'on en dise, ne se fera pas sans les géants nationaux que sont EDF, Total.
Oui, d'accord, mais ça a un coût. J'ai beaucoup insisté, comme le disait Bernard Spitz à l'instant. Il y a un coût de cette transition. Il y a un coût pour. On le voit dans la voiture électrique. Dès qu'on arrive, on arrête le leasing social. Les Français, ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique. On le voit aussi dans la rénovation énergétique. Donc, on voit qu'il y a un vrai problème de financement, de modèle économique de cette transition. Et que c'est sûr que vu le niveau de nos finances publiques, l'État ne peut plus grand-chose. Donc il faut réinventer un modèle public-privé.
Sujet qui n'a pas été en tête de liste des sujets lors de les élections législatives. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai oublié de saluer Thomas Asportas. Bonsoir Thomas, qui est avec nous. Alors peut-être pour resituer, et puis on va vous demander, évidemment, on va faire des tours de table sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, de nous reparler un petit peu du discours de Patrick Martin. Qu'on a suivi tout à l'heure, bien sûr, en direct sur BFM Business à 14h, 40 minutes.
Ouais.
Entrée en fanfare, on l'a dit.
Voilà.
Start Me Up des Rolling Stones.
Mick Jagger. L'an dernier, c'était Queen. Bohemian Rhapsody, il disait, j'ai mis cette chanson parce que, d'après les scientifiques, c'est la chanson qui diffuse le plus de joie de vivre.
Ça alors.
Voilà, il avait expliqué avoir choisi cette chanson pour ça. Et là, cette année, Start Me Up, les Stones, bon, peut-être pour faire souffler un vent un peu, peut-être presque rebelle, hein, les Stones,
Il en fallait un peu, oui, évidemment.
Esprit libre.
Alors, d'un mot, disons 40 minutes de discours, du positif, il en faut toujours, même en pareille circonstance, et puis quand même des mises en garde assez explicites aujourd'hui, Thomas.
Oui, évidemment, on se demandait quel allait être son ton et les mots qu'il allait employer dans ce contexte politique inédit. Et vous l'avez dit, il a essayé de chercher en tout cas une ligne de crête entre de l'optimisme, parce que comme vous dites, il en faut quand on est président du MEDEF, si on n'est pas optimiste quand on est chef d'entreprise pour changer de métier. Optimisme aussi parce que la conjoncture n'est pas si dégradée, elle est assez contrastée, on a des indicateurs qui vont dans les deux sens. Optimisme parce que tout le monde, les chefs d'entreprise mais les Français en général, sont complètement galvanisés par le triomphe des Jeux Olympiques et des Paralympiques qui commencent après-demain. Et en même temps, une mise en garde parce que toutes ces réussites françaises, tout ce succès, tous ces triomphes, ils peuvent... très vite être balayé d'un revers de main si demain les mauvais choix politiques sont pris, et donc grosse mise en garde vis-à-vis de ça. Et en premier lieu, envers le programme du nouveau Front Populaire. Patrick Martin avait déjà mis en garde avant l'été, hein, en mois de juillet, il était sorti du bois, et là il reprend son bâton pèlerin pour dire que ce programme serait, je le cite, insupportable.
Littéralement étrié, mais est-ce qu'il pouvait en être autrement, Edwige, finalement?
Non, c'est clair. Souvenez-vous, lorsque j'avais fait ce débat justement avec tous les entrepreneurs organisés par le MEDEF, avec tous les différents chefs de parti, il était clair, il avait signé une tribune le matin même, Patrick Martin, où il avait dit il faut attention à cette politique de l'offre, il ne faut pas y toucher avec le programme. Alors, il ne l'avait pas nommé, alors que là, il a été clair. Ouais. Là, il l'a dit aujourd'hui. Hein, il a dit sur le nouveau Front Populaire et les filles, il y a 3 erreurs à ne pas commettre. Donc, Thomas les a rappelées. Et donc, de ce point de vue-là, il a été très clair. Il a dit, moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, parce qu'il faut bien qu'il y ait une contrepartie, et Bernard Spitz pourra sans doute y répondre. On met souvent en cause, enfin, en tous les cas, le nouveau Front Populaire, le montant d'aide versé aux entreprises. C'est vrai que c'est colossal, c'est de l'ordre de, enfin, ça va entre 150, 180 milliards.
Alors le chiffre de 200 milliards qui circulait est sujet à caution, il est vraiment.
C'est pour ça que non, il n'est pas 200, c'est entre 135 même, pour être précise, et 180, ça dépend ce qu'on met dedans. C'est, la marge d'erreur, la marge de manœuvre est assez importante. En tous les cas, ça coûte très cher. Pourquoi ? Eh bien lui, il a répondu ce matin, j'ai trouvé ça bien, enfin tout à l'heure, Patrick Martin, il a dit, il faut qu'on remette tout à plat. Et je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer pourquoi. Il y en a certaines qui viennent des 35 heures, d'autres c'est pour compenser les impôts de production, la fiscalité qui est beaucoup plus élevée. Et j'ai trouvé ça bien qu'il lance cette perche.
Bernard Spitz, vous achetez cette remise à plat des aides attribuées aux entreprises. Pour vous, est-ce qu'il faut faire un reset? Il a beaucoup parlé de reset d'ailleurs à ce sujet aujourd'hui.
Je pense qu'il faut prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à tout ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a parlé d'économie. On a entendu le président du Sénat, on a entendu la présidente de l'Assemblée nationale donner un peu les lignes rouges qu'il fallait pas franchir en économie. Et c'est très important parce que, en fait, depuis un mois, même depuis 3 mois, on ne parle plus que de politique. Et en réalité, c'est pas très important. C'est pas très important parce que il y a des gouvernements, à la limite, il y a des pays qui n'ont pas de gouvernement. Le problème, c'est que dans quelques semaines, on va devoir répondre à un sujet économique, financier, massif, qui est le budget. Ouais. Comment on répond à l'Europe qui nous a mis en observation négative.
Tout à fait.
Et comment on va
se présenter? Qui va faire donner des gages aussi, l'Europe, très prochainement.
C'est pas des gages, non, mais attendez.
Un programme de stabilité, c'est ça?
Des gages,
c'est pas des gages.
On balade tout le monde depuis des années. Là, c'est fini, là, on touche le mur. Deuxièmement, un rendez-vous qu'il ne faut pas oublier, octobre-novembre, les agences de notation.
Oui.
Elles vont juger de la sincérité et de la crédibilité de nos politiques. Alors, si on ne répond pas de façon cohérente, on a un problème. Et la difficulté que je vois, moi, c'est que politiquement, toutes les solutions que l'on recherche, je ne parle même pas du programme d'une FP qui nous amènerait dans la situation de la Grèce, ce serait une tragédie. Tout le monde est d'accord là-dessus, l'ont dit également les présidents des deux assemblées. Donc. Mais si le consensus politique se fait juste dans l'évitement, c'est-à-dire dans le fait de toucher pas grand-chose, de faire un petit geste ici, un petit geste là, et d'oublier que ce n'est pas ça qui va convaincre les marchés, alors on est exposé à un vrai risque. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération, parce que la grande crise en Angleterre, Listos, ça a duré 48 heures. Et ça s'est réglé. Et puis quand vous tombez, vous ne pouvez pas dire non, mais je voulais dire autre chose.
Ah, la confiance se perd plus vite qu'elle ne se rattrape.
C'est ce qu'a dit Yael Braun-Pivet. La Grèce, pareil. Et l'Italie en 2011, pareil. Donc voilà, ça peut aller vite. Il faut vraiment qu'il y ait une solution politique, certes, mais pas au prix d'un déni économique.
Thomas, oui, vous voulez.
Un déni économique en même temps, comme vous le disiez, il y a des pays qui fonctionnent sans gouvernement, et beaucoup de chefs d'entreprise disent ici, mais quelque part, si on nous fiche la paix, si on nous laisse avec tout ce qui a été fait depuis 7 ans, on sera ravis, ne touchez à rien.
Mais ça ne suffit pas, parce que ce qu'on a fait depuis 7 ans, et qui a été positif, absolument, la politique de l'offre, qui a d'ailleurs été commencée sous François Hollande à la fin, les frondeurs qui l'ont attaqué.
C'était il y a 10 ans, ici, Manuel Valls.
Absolument, et il y a 10 ans exactement, Manuel Valls avait fait sensation en venant au MEDEF dire « moi j'aime l'entreprise
».
Aujourd'hui, on n'en est plus là, heureusement. C'est une évidence. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est être capable de parler vrai, comme elle disait, et donc de trouver des solutions qui soient crédibles sur le plan financier.
Edwige.
Deux choses. D'abord, je pense que là, on voit bien, il suffit de regarder toutes les alertes sur nos téléphones portables. Encore une là, avec Renaissance qui dit s'il y a LFI qui fait partie du gouvernement, on votera la motion de censure tout de suite.
Oui.
On votera la motion de censure s'il n'y a pas. Enfin, bon, bref. En tous les cas, on voit bien que le rendez-vous du budget, la préparation du budget, ça va être un moment décisif. Parce qu'on risque quoi ? On risque que la France se trouve dans une situation complètement bloquée. Parce que s'il n'y a pas de budget, il n'y a plus rien.
Ce qui est arrivé deux fois dans l'histoire de la Ve République,
mais
si
là,
je ne m'abuse.
Dans
la dernière fois en 1980, ce qui nous... Oui, pardon.
On y court, si ce n'est que ça fait un peu penser, vous savez, au système américain.
Oui,
à chaque fois,
oui,
on dit du shutdown, ça y est, ça va arriver, ça va être la fin, puis ils trouvent toujours un accord. Donc espérons qu'on va se retrouver dans cette situation, qu'il y aura un accord au dernier moment, mais c'est presque dans quelques jours. Enfin, je veux dire, c'est vraiment...
C'était déjà pour avant-hier le budget. Hein. Oui. Il faut qu'il soit présenté au Conseil d'État dans trois semaines.
Exactement.
C'est rien. Donc, le budget, c'est des centaines de pages.
Et c'est essentiel. Et je pense qu'il faut vraiment prendre en compte que c'est... la petite politicienne, il faut qu'il se dépêche
le tout sous le regard des agences de notation qui vont regarder comment se passent les prochaines semaines, qui vont regarder aussi de très près comment se déroule le débat budgétaire cet automne à l'Assemblée ou pas au Parlement. Oui, pardon Bernard Spitz, allez-y.
Oui, non, mais c'est tout à fait ça, et donc on doit convaincre que dans une période relativement courte, quelque chose entre 5 et 7 ans, on est capable de revenir, de diminuer l'état de la dette, de diminuer nos déficits et de trouver une façon d'accepter de faire des économies et pas seulement des dépenses.
Sous le regard des agences de notation, sous le regard des Européens et des Allemands. Parce que là, on a de nouvelles règles budgétaires européennes qui entrent en vigueur. Le nouveau pacte de stabilité qui a été négocié par les Allemands et par Bruno Le Maire. Et là, maintenant,
et les
Allemands veulent qu'on les respecte. Les Italiens et les Allemands veulent qu'on les respecte. Là, on ne peut plus dire il y a le Covid, il y a l'Ukraine, etc. Non, maintenant, il y a des règles et on doit les respecter.
Il faut ajouter une chose que les gens ne connaissent, n'ont pas fait forcément suivi, qui est technique, mais en Allemagne, on dit c'est la BCE va nous aider. La BCE ne va rien faire du tout. Ce n'est pas son mandat de venir nous aider. Non. Et la Cour de Karlsruhe a rendu des décisions dans le passé qui montrent très clairement que si la BCE demande à la Bundesbank de financer et que le gouvernement allemand la Bundesbank ne obéira aux Allemands et pas à Bruxelles.
Qu'est-ce qui peut se passer désormais, je donne la parole à Predwich, qui peut se passer pour vous désormais avec les Allemands si les choses dérapent ? Est-ce que ça peut être l'aléa de trop ? Et une sorte de casus belli cette fois.
Personne n'a intérêt à ce que les choses dérapent. Donc on a tous intérêt à trouver des solutions raisonnables. Mais c'est clair qu'il n'y a pas que la France. Si la France était... la France, elle est too big to fail. Ah, mais elle est, justement, parce qu'elle est trop big to fail, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
Et que les Allemands ne sont pas dans une situation extraordinaire non plus.
Et les Italiens seraient entraînés très rapidement si ça décrochait du côté français. Donc on a un vrai enjeu européen, et c'est la zone euro, à la fin des fins, c'est qui ça. Est concernée.
Oui. Edwige, oui.
Non, juste un point, je revenais sur les trois erreurs qu'a citées Patrick Martin ce matin, les trois erreurs de LFI. Il avait dit, évidemment, c'était la remise en cause, Thomas l'a dit, de la politique de l'offre. La deuxième, c'était l'alourdissement de la fiscalité. Et le troisième point, c'est un SMIC à 1600 euros.
Alors voilà.
Augmentation des salaires, d'où la question du pouvoir d'achat. Et là, il a été clair là-dessus, Patrick Martin. Il a dit, il n'en est pas question. Donc, je pense que ça va être un sujet quand même qui va ressortir.
En tout cas, pas la charge seule des entreprises.
Alors voilà,
Pourquoi pas augmenter les salaires, mais à ce moment-là, il faut revoir le financement de la protection sociale.
C'est effectivement la petite subtilité ce matin, en tout cas dans la presse, c'est ouvrons le débat sur le financement de la protection sociale.
Il y a un problème de salaire, mais les entreprises, effectivement, ne peuvent pas tout assumer.
Alors, il y a un problème de pouvoir d'achat qui n'est pas exactement le même problème. Et justement, ce qui a été dit de façon assez convergente ce matin, enfin cet après-midi, c'est que régler le réel problème du pouvoir d'achat ne passe pas uniquement par l'augmentation des salaires, il passe par une diminution des charges, il passe par toute une série de mesures qui peuvent être prises sans avoir ce côté automatique qui viendrait pénaliser la compétitivité française.
Ça suppose toujours, à la fin des fins, que
l'État soit capable, l'État et les collectivités locales soient capables de faire des économies.
Quelles économies ? Parce que diminuer les charges, mais vu l'état de nos finances publiques, l'État ne va pas se priver de recettes.
On a l'impression que l'État commence à se tourner du côté des collectivités locales en disant dans le cadre de la préparation de ce budget au-delà vous ne faites pas tellement d'efforts. Voilà, apparemment une espèce
le déficit de l'État n'est qu'une partie
n'est qu'un tiers, mais on demande aussi un effort aux collectivités locales. Je voudrais vous demander à tous les trois, parce que vous avez tous croisé beaucoup de patrons aujourd'hui, globalement c'est peut-être le SMIC, c'est peut-être la principale source d'inquiétude pour eux aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a une qui émerge, qui ressort du lot? Pas forcément, c'est un climat un petit peu ambiant qui est...
Alors, je commence. La question de la politique de l'offre, évidemment, en disant est-ce qu'on revient dessus ou pas. Là, alors, c'était parce que j'étais avec des chefs d'entreprise qui sont impliqués dans la politique énergétique, la transition. Ils expliquaient qu'il y avait un risque au niveau européen, comme au niveau français, qu'on ralentisse. qu'on dise, bah, pour l'instant, cette transition écologique, ça va un peu trop vite. Or, ils disaient tous, on ne peut pas, il faut qu'on avance, il faut même accélérer. Mais comment faire ? Donc, c'était vraiment un des points importants. Et en plus, il y a beaucoup de chefs d'entreprise et des patrons de PME qui se disent, mais comment je peux la financer ? Donc, voilà, c'était une deuxième interrogation que moi, j'ai entendue.
Ouais. Bernard Spitz.
Oui, j'ajouterais la question des retraites, hein, qui a été quand même un point. Alors, il y a certains secteurs, je pense à l'assurance par exemple, qui sont évidemment directement impactés par des évolutions qui se feraient de ce côté-là, mais d'une façon générale, évidemment, toute l'économie et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les agences de notation, ça c'est un marqueur absolu. Et de la même façon que peut-être les agences ont surestimé l'importance de la réforme, parce que pour eux c'était... Ils ne sont pas rentrés trop dans le détail de elle était bonne réforme, mauvaise réforme. Est-ce qu'on était capable de faire la réforme ? On l'a faite, ça les a convaincus, ça nous a donné un sursis de crédibilité. Mais si demain, on revient en arrière là-dessus, alors là, les conséquences peuvent être terribles.
Thomas, qu'est-ce que vous avez...
Ce qui inquiète les patrons en France, c'est ce qu'a dit Edwige, c'est la remise en question de la politique de l'offre. Oui. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que la France. Beaucoup d'entrepreneurs ici sont tournés aussi vers l'export et l'étranger. Il y a trois choses qui les inquiètent quand il y a le panorama global. C'est un, le ralentissement de la conjoncture en Chine, surtout aux États-Unis aussi, quand même
évidemment. Ouais.
Ensuite, on revient à la table ronde d'Edwige, les prix de l'énergie. Parce que qu'on le veuille ou non, l'Europe n'est pas compétitive là-dessus, et notamment la France, où on a des prix de l'énergie particulièrement élevés. Et enfin, et là, on reste dans le cadre européen, c'est ce mur normatif et réglementaire qui vient pour de bonnes raisons, mais qui nous désavantage de manière massive vis-à-vis des chefs d'entreprise américains et chinois qui ne sont pas confrontés à ça et qui rajoutent... Enfin, c'est pour ça qu'on entend parler depuis quelques mois, matin, midi et soir, de simplification, aussi bien dans la bouche de Bruno Le Maire quand il était aux manettes, ou d'Ursula von der Leyen quand elle s'est faite réélire. Elle dit « Je vais nommer un commissaire en charge de la simplification ».
Il y a un sujet sur les taux qui est quand même un sujet aussi qui a été beaucoup évoqué au cours des discussions. C'est-à-dire qu'on a des signaux plutôt positifs en matière de réduction des taux, hein, les déclarations de Powell...
Ce qui va constituer une petite bouffée d'oxygène quand même. Pour,
en théorie, après, sous la réserve que l'inflation soit, les chiffres soient validés. Et c'est vrai qu'on a des signaux contradictoires. Ouais. On l'a dit, il y a des choses positives. La croissance, même si elle n'est pas au zénith, correspond à ce qui avait été anticipé.
C'est pas si mal.
L'emploi, c'est pas si mal. Donc, il y a des signaux positifs. Et en fait, on a un peu peur du vide.
Ouais. Intéressant. On a peur du vide et en même temps... La situation qu'on connaît là, cette inconnue politique, quelque part, est-ce qu'il ne faut pas se rassurer en se disant qu'au fond, c'est pareil ailleurs ? Vous connaissez bien les Européens, les Allemands, les Italiens, ces histoires de trouver des compromis, des coalitions, mais eux, c'est leur quotidien.
Oui, mais nous, c'est pas notre culture.
C'est leur culture. Mais en fait, s'ils y sont arrivés, on n'est pas des Martiens.
Ah, c'est sûr, mais c'est leur culture. C'est pas non plus les mêmes institutions. On est un régime présidentiel. Là, vous me parlez de régime parlementaire. Ça change tout. Ils sont construits pour faire ça. Et donc voilà.
Enfin, si nos voisins européens, les Pays-Bas récemment aussi, ils sont arrivés.
Oui, mais ça ne s'acquiert pas en quelques mois, ça, la culture
de compromis.
Oui, mais
surtout, c'est que la crise politique, pardonnez-moi, mais la crise politique, elle existe aussi bien en Italie, elle existe aussi bien en Allemagne,
en Espagne.
Donc, ce n'est pas forcément non plus la panacée.
Non, je ne dis pas que c'est la panacée, mais voilà, cette culture, comme vous dites, c'est le mot que vous employez, Guillaume, du compromis de la coalition, on peut peut-être arriver, enfin, je veux dire, en tout cas, quand on nous observe de l'extérieur, on se dit qu'au fond, les problèmes que rencontre la France, c'est les problèmes de nos autres voisins européens.
Oui, un tout petit point, pardon, parce que c'est une information qu'a donnée tout à l'heure Catherine McGregor, la patronne d'Engie. Je rebondissais sur ce que disait Thomas sur le coût de l'énergie. Elle disait, ça va, parce que je ne sais pas si vous avez vu qu'il y avait des drones qui ont attaqué, en tous les cas, des centrales ukrainiennes. Forcément, ça a un impact un peu immédiat. Elle a dit, pour l'instant, pas de problème pour l'hiver, mais il y aura peut-être un problème l'hiver prochain. Sur le coût de l'énergie. Donc,
Et c'est là que je vous pose la question, Bernard Spitz, face à l'étendue de tous ces défis qu'on énumère depuis 15-20 minutes, est-ce qu'à un moment donné, on va se dire, finalement, l'Europe est plus la solution que le problème, finalement.
Ah, mais je crois que
est-ce que ce temps va enfin venir ?
Voilà, vous savez, sous la réserve des
on a cru sous le Covid que ça y est, voilà, que l'Europe allait devenir...
Je crois que les gens... sur l'Europe, il n'y a pas tellement de soucis. Les gens, bien sûr, il y a trop de normes, etc. Mais les Français et la plupart des Européens, la grande majorité des Européens, sont pro-Europe. Après, la question, c'est effectivement que le problème, c'est que il y a des gens qui sont en retard et que l'ajustement, il ne sera pas fait par les autres pour nous. personne ne viendra payer la facture que notre négligence aura provoquée. Et c'est ça l'Europe aussi.
À quel moment on va s'en remettre à l'Europe pour vous? À quel moment on va s'en remettre à l'Europe?
Ça ne change rien, hein. L'Europe ne viendra pas à notre secours. C'est de nous-mêmes que viendra l'effort. C'est pas l'Europe qui viendra nous apporter l'oxygène dont on a besoin. L'Europe peut comprendre si on lui propose effectivement un programme crédible.
Ça fait longtemps qu'ils sont compréhensifs,
les Européens. Oui, c'est vrai.
Sur la mais France.
Là, disons qu'ils seront un peu plus sceptiques. Hein, donc, mais si on leur propose quelque chose, oui, ils nous aideront. D'abord parce qu'en nous aidant, ils s'aident eux-mêmes, et ensuite parce que c'est la nature des choses. Mais il faut qu'on fasse cet effort. Il faut qu'on le fasse collectivement, l'État, les entreprises, les collectivités. Si on veut être dans le déni et que personne ne veut faire d'effort, eh bien là, on aura un problème collectif.
Et est-ce que vous, MEDEF, vous êtes prêt à repartir au combat? Parce que quand même, ce qui m'a marqué dans le discours de Patrick Martin, c'est de dire... on va constituer un front économique. C'est pas un hasard si l'on emploie ce terme. C'est front contre front.
C'était un front, non, je dirais pas ça.
Moi, je l'ai compris comme un front. Suivez ce front-là, c'est ce qu'il a dit.
Je le conçois plutôt comme une addition d'une équipe de France qui se met, disons, collectivement.
Il y avait un petit côté combat, hein, moi je suis d'accord.
Oui, mais disons qu'une équipe qui doit battre l'autre équipe. Quoi,
ça s'appelle une confrontation des idées, c'est exactement ça.
Absolument, c'est ça une démocratie. De toute façon, la qualité d'une démocratie, c'est la qualité de son débat public. Si on apporte un plus au débat public, ce que font les médias sérieux, ce que peut faire le MEDEF, ce que peuvent faire les cercles de réflexion, eh bien, on contribue à mieux faire comprendre les choses. Parce que l'une des drames de la dissolution, c'est qu'elle a ouvert la voie à des discussions improvisées sur le plan économique, et que du coup, personne n'a parlé des sujets dont on parle maintenant. Et donc on les découvre, et c'est difficile de faire passer le message.
Il nous reste une minute, Bernard Spitch, juste pour dire un mot d'une tribune que vous avez publiée il y a quelques heures dans le journal Les Échos. Ça s'intitule Taxer, c'est une question que vous posez, taxer les impatriés pour renflouer nos finances. C'est votre contribution au débat actuel, et on parle de quoi exactement?
C'est l'idée qui est que les Italiens ont pris une mesure très astucieuse. Ils ont doublé le coût de la mesure fiscale, ce qui demande aux gens qui viennent s'installer en Italie. En fait, deux fois rien, comme disait De Vos, c'est pas grand chose.
Enfin, deux fois rien chez nous, ça n'existe pas.
Mais
rien n'est gratuit en France.
Mais ça donne le sentiment qu'on a écouté l'idée qu'il fallait faire payer les riches, sans les décourager. Parce que si on...
Mais vous voulez faire payer qui? Pardonnez-moi, les impatriés.
Non, le programme du NFP. Le programme du NFP veut faire payer les impatriés. On parlait de Manuel Valls il y a 10 ans. Valls a eu l'intelligence et le courage politique avec François Hollande
de dérouler le tapis rouge, justement.
Le tapis rouge, c'était les Anglais qui l'avaient déroulé. Nous, on l'a déroulé dans l'autre sens. Et on a permis à des gens, après le Brexit, de venir s'installer en France et d'apporter leur richesse. Et donc, ce que je montre, c'est que ça a apporté énormément d'argent. Ça rapporte 3 milliards par an de façon directe, et ça peut rapporter beaucoup plus indirectement. Chasser ces gens-là en leur créant pour de façon démagogique une situation défavorable, eh ben, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est ce qu'il ne faut pas faire.
Oui, si ce n'est qu'ils ont une solution du côté du NFP, c'est-à-dire c'est de taxer, y compris ceux qui sont les Français qui habitent à l'étranger.
Oui.
Alors ça, c'est
ce que font les Américains.
C'est une solution qui n'existe pas, Edwige, puisque ça suppose de rechanger toutes les conventions bilatérales fiscales avec la terre entière. Quand on est les États-Unis, on peut se permettre certaines choses. Bon, on n'en est pas encore là.
Bien, nous aimons cette confrontation des idées, même sur le plateau de BFM Business, au-delà du discours de Patrick Martin. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Bernard Spitz, président des GRAC, ancien président de la Commission internationale et Europe du MEDEF. Merci d'avoir été avec nous. Edwige, à demain, 18h30, après une matinée encore forte en émotion.
Matinée assez chargée, parce que c'est la première confrontation entre Thierry Cotillard, qui est le président du groupement Les Mousquetaires, qui est vice-président de la Fédération du commerce et de la distribution, et face à lui, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, qui lui, du reste, est en train de faire sa propre loi agricole en disant, faute de gouvernement, on va y aller. Et à mon avis, en préparant les débats, je sens que la confrontation va être assez chaude.
Ça s'annonce épique, ça sent bon la rentrée, effectivement, absolument. Et on se retrouve demain soir, bien sûr, en plateau sur BFM Business dans Good Evening. Thomas, merci, à tout de suite. Bon, on se retrouve tout de suite pour refaire un point sur le discours de Patrick Martin. Il sera 19h. Dans un instant, on est ensemble jusqu'à 20h. Nous, nos experts arrivent à 19h15, bien sûr, 19h15, 20h pour décrypter cette actualité très riche ici à la REF à Longchamp. À tout de suite.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.